Je crois que la parole de Dieu est la chose la plus puissante qui existe sur terre. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Donc, quand nous nous approchons de la parole de Dieu, nous devons le faire avec respect et avec grande attention. La parole de Dieu n'est pas des mots ordinaires, mais des mots remplis d'une puissance qui change la vie. Et je crois que quand la parole est prêchée, les miracles sont disponibles pour changer les vies, pour sauver, pour guérir physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et je veux vous encourager, pendant que je prêche ce soir et tout le week-end, je ne veux pas que vous vous asseyiez là simplement pour attendre de voir ce qui va se passer. Vous savez, je veux que vous vous attendiez à ce que Dieu vous touche. Et si vous avez une maladie dans votre corps ou de la douleur, je veux que vous vous attendiez à la guérison. Je veux que vous vous attendiez. Je crois le psaume 107, 20 qui dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Vous voyez, je ne crois pas. Oui, nous pouvons imposer les mains sur les malades. Nous prions la prière de la foi et les malades sont guéris. Mais je crois que quand la parole de Dieu est prêchée, les gens peuvent recevoir des guérisons physiques. Nous l'avons vu se produire dans d'autres endroits. Et croyez-moi, j'ai la foi que quand la parole sera prêchée, les gens recevront toutes sortes de guérisons émotionnelles, délivrance des dépendances et des esclavages, des cœurs brisés seront guéris, des malades seront guéris, la douleur quittera votre corps. Nous servons un Dieu fort, puissant, faiseur de miracles. Amen. Et Dieu est un Dieu de feu et de puissance, et non pas sans vie, mort et froid. Il ne nous apporte pas un tas de religions sèches et mortes. Je pensais, pendant le culte, vous savez, parce que nous attirons des gens de toutes sortes de confessions imaginables et des gens qui ne savent pas encore quelle confession adopter et des gens qui ne veulent adopter aucune confession. Je sais que quand vous venez à une conférence comme ça, et que vous êtes au milieu d'un débordement puissant de gens adorant Dieu, comme nous avons fait ce soir, vous n'avez peut-être jamais vu quelque chose comme ça, et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais sincèrement, vous saviez dans votre esprit que c'était juste et bon. Et le point essentiel, c'est que les gens ici ce soir s'enthousiasment pour Jésus, et nous devrions nous enthousiasmer pour Jésus. En fait, nous croyons qu'il n'y a pas de mal à prodiguer nos émotions sur toute autre chose au monde, sauf Jésus. Et quand vous vous sentez un peu ému à l'égard de Dieu, les gens disent « fanatique, émotivité, vous savez, pentecôtisme, ces gens bizarres. » Eh bien, vous savez quoi? Je préfère être un peu trop chaude que décédée et glacée. Nous essayons donc de nous concentrer sur le fait de laisser Dieu être Dieu. Et je veux que vous vous attendiez à des choses tout le week-end. Attendez-vous. Ne venez pas vous affaler comme un poisson mort et attendre de voir ce qui va se passer. J'ai proclamé ma foi. J'ai prié et je suis prête. J'ai étudié et je suis prête. Maintenant, proclamez votre foi. Et donc, je prie pour vous au nom de Jésus que tout ce dont vous avez besoin dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre pensée, il y a une puissance miraculeuse ici ce soir pour vous la porter au nom de Jésus. Amen. Bon. Maintenant, les pensées précèdent toujours les actions. Je dis toujours, là où la pensée va, l'homme suivra. Et je crois que c'est très vrai. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 8, verset 5, que ceux qui vivent selon la chair et sont contrôlés par ses désirs impies, pense aux choses qui plaisent à la chair et recherche ces choses qui lui plaisent. Donc, il est très clair là. Si vous marchez ou si je marche selon la chair, c'est que je pense continuellement aux choses charnelles et c'est donc ce que je poursuis. Les choses auxquelles nous pensons, nous les poursuivrons toujours. Notre pensée affecte nos émotions. Ce que nous pensons sort de notre bouche. Il affecte toutes nos actions. Puis il continue en disant, « Mais ceux qui vivent selon l'esprit et sont contrôlés par les désirs de l'esprit pensent aux choses qui plaisent au Saint-Esprit et les recherchent. » Écoutez-moi, laissez-moi vous dire ceci. Vous ne pouvez pas avoir un esprit charnel et avoir une vie spirituelle. Ça ne marche pas. Il faut donc apprendre à penser exprès aux choses qui vont nous profiter. Proverbe 23, 7 dit, « Comme un homme a pensé dans son âme, tel il est. » Il y a une autre traduction qui dit, « Tel il devient. » La Bible nous enseigne, surtout dans 2 Corinthiens chapitre 10, 4 et 5, qu'il y a une guerre en cours, que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Nous renversons des imaginations et des théories et des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces versets parlent en fait de la pensée et de la bataille qui se déchaîne dans la pensée. La pensée n'est autre que le champ de bataille où Satan fait tout son possible pour prendre le contrôle de nos vies. Satan ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit, « Je suis venu, et je suis si heureuse qu'il l'ait fait, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Chacun de vous dispose d'un droit acheté par le sang payé par Christ, décrété par Dieu, de jouir de chaque instant de votre vie. Nous ne sommes pas ici pour la misère, nous sommes ici pour profiter de nos vies. Amen. Et le diable ne veut pas que nous fassions ça. Il ne veut pas des chrétiens heureux parce que les chrétiens heureux sont susceptibles de communiquer leur joie aux autres. Tant que tout ce que le monde voit, c'est des gens sauvés et tristes, avec des autocollants et de petits bijoux chrétiens, ça ne leur suggère qu'ils pourraient envisager de vouloir ce que nous avons. Donc, vous le sachiez ou non, la joie n'est pas simplement, elle n'est pas simplement se sentir bien, elle est très nécessaire. En fait, c'est la meilleure pub que vous pouvez avoir pour l'évangile de Jésus-Christ, surtout quand vous pouvez sortir et être heureux alors que toutes vos circonstances ne sont pas heureuses. Donc, le diable n'a pas commencé à travailler sur nous hier ou ce matin. Il n'a pas arrêté depuis très, très longtemps. Mais nous avons des armes. Dieu merci, nous avons des armes. Et toutes les armes impliquent la parole de Dieu. Ce soir, quand nous adorions Dieu, c'était une arme. Nous faisions la guerre spirituelle ce soir quand nous adorions Dieu. La parole que je prêche ce soir combat les esprits démoniaques et détruit des forteresses dans la vie des gens. Quand nous écoutons la parole, prononçons la parole, méditons sur la parole, chantons la parole, quand nous louons Dieu, toutes ces choses sont des armes qui vainquent l'adversaire. La Bible nous enseigne que notre pensée doit être renouvelée et nous allons beaucoup en parler ce soir. Le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Il a étudié attentivement chacun d'entre nous depuis très longtemps. Mais mon point essentiel et ma question à vous est combien de temps vous l'avez étudié? Combien de temps ça nous prend pour reconnaître une attaque ennemie? Combien de temps nous supportons les absurdités du diable avant de nous donner la peine de dire « Je sais ce que tu essayes de faire et tu ne vas pas le faire. Quel que soit le mensonge que tu me dis, voici ce que dit la parole de Dieu et voici ce que je crois. Combien de temps est-ce que nous supportons le tourment de l'ennemi? Combien de jours devons-nous être dans une crise de dépression et plein d'apitoiement sur nous-mêmes avant de dire « Oh, je crois que je suis attaqué par l'ennemi ». N'attendez pas d'aller tellement mal qu'il faut un camion de chrétiens pour venir vous appuyer. Apprenons à faire ce que la Bible nous dit de faire dans 1 Pierre 5, résister au diable dès le début. Immédiatement. Non, arrière de moi, tais-toi, tu es un menteur, ce n'est pas vrai. Et je suis personnellement fanat de parler à haute voix. Je crois que si vous êtes dans un lieu où vous pouvez répondre au diable, Jésus a répondu au diable, donc pourquoi pas nous? Il est notre exemple. Vous dites, quand est-ce qu'il a répondu au diable? Dans Luc chapitre 4 et dans d'autres endroits. Le diable commence au début de notre vie par bombarder nos pensées avec des modèles habilement conçus de petites pensées lancinantes. Soupçons, doute, peur, questionnement, raisonnement, théorie. Il agit lentement et prudemment. Après tout, les plans bien conçus prennent du temps. Une forteresse est un lieu où un ennemi vient s'installer et contrôler. Et donc, quand la Bible dit que nous avons des forteresses dans notre pensée, nous devons comprendre que c'est un domaine où l'ennemi, Satan, a travaillé une longue période de temps et maintenant il s'est implanté dans ce domaine et il nous a fait croire quelque chose qu'il veut et qui n'est absolument pas vrai. Toutefois, tant que nous croyons que c'est vrai, aussi faux que ce soit, il sera vrai pour nous. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie que je croyais fermement et qui étaient absolument fausses. Mais je ne savais pas qu'elles n'étaient pas vraies parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je me demande si nous savons combien la parole de Dieu est précieuse. Vous savez quoi? Je rends grâce à Dieu pour ce que je sais. Oh mon Dieu, je n'échangerai rien contre les 37 ans où j'ai étudié la Bible. Je rends grâce à Dieu pour ce que je sais. Plus vous connaissez la parole, non mais vous la connaissez vraiment, moins vous êtes susceptible d'être trompé. Le diable ne veut pas que vous étudiez. Il ne veut pas que vous soyez ici ce soir. Et il essaiera de faire tout ce qu'il peut pour vous distraire, car il ne veut pas que vous en profitiez. Mais ne vous inquiétez pas, car j'ai déjà prié. Et vous allez faire attention. Point final, fin de la conversation. Et gardez-vous de vous endormir ici, car nous avons des gens qui vous attraperont. Avec ces armes dont nous disposons, les forteresses peuvent être détruites. Donc, nous avons vu jusqu'à présent que nous sommes dans une guerre. Sinon, pourquoi nous appelle-t-on des soldats dans l'armée de Dieu? Les soldats dans l'armée sont pour la guerre. Nous sommes dans une guerre. Notre ennemi est Satan et non pas les gens. Notre lutte est contre les principautés et les autorités et la méchanceté dans les lieux célestes. Et je sais, vous savez, nous n'aimons pas. Ouais, je ne sais pas, Joyce, cela me met mal à l'aise tout ce discours sur le diable. C'est plutôt funèbre. Eh bien, vous préférez passer le reste de votre vie misérable et trompé? Ou peut-être savoir que vous avez un ennemi? Il ne devrait pas trop vous inquiéter car Dieu est beaucoup plus grand que lui, mais vous ne pouvez pas l'ignorer non plus. Jésus n'a pas ignoré le diable et nous ne pouvons pas l'ignorer non plus. Notre pensée est le champ de bataille. Le diable travaille avec diligence pour bâtir des forteresses dans notre pensée. Il prend son temps pour concevoir son plan. Donc maintenant, nous verrons comment fonctionne exactement ce plan à travers une parabole que je vais vous raconter. Et ce n'est pas une parabole que Jésus a racontée. C'est ma propre parabole que j'ai inventée. Et elle est dans ce livre, Champ de bataille de la pensée. Et donc, vous allez me supporter et me laisser vous raconter une petite histoire. Marie et son mari Jean ne jouissent pas d'un heureux mariage. Il y a des conflits entre eux tout le temps. Les deux sont coléreux et pleins de ressentiment. Ils ont deux enfants qui sont touchés par les problèmes dans leur maison. Les conflits se manifestent dans leur travail scolaire. Les résultats des conflits dans leur maison se manifestent dans leur travail scolaire et dans leur comportement à l'école. Un des enfants a maintenant des problèmes d'estomac à cause de ses nerfs. Certaines d'entre vous pourraient penser, « Eh bien, je suis mariée et je suis mariée à Jean. » Beaucoup d'entre vous peuvent déjà reconnaître où nous allons avec ça. Le problème est que Marie ne sait pas laisser Jean être le chef de leur maison. Elle est autoritaire. Elle veut prendre toutes les décisions, gérer les finances et discipliner les enfants. Elle veut travailler pour avoir son propre argent parce qu'elle est indépendante, exubérante, exigeante et mégère. Donc vous pensez probablement maintenant, « Eh bien, j'ai la solution pour Marie. » Elle a besoin d'être sauvée. Elle a besoin de connaître Jésus. Eh bien, devinez quoi? Elle connaît Jésus. Elle a reçu Jésus il y a 5 ans, 3 ans après son mariage avec Jean. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de changement en Marie depuis sa régénération? Eh bien, si, il y a eu quelques changements. Elle croit maintenant qu'elle ira au ciel quand elle mourra. Mais elle vit toujours sous une constante condamnation parce qu'elle a mauvaise conscience au sujet de son comportement qu'elle semblait n'avoir aucune capacité de contrôler. Elle a un peu d'espoir maintenant alors qu'elle n'avait aucun espoir avant de connaître Jésus. Elle était misérable et désespérée. Maintenant, elle est simplement misérable. Être un pécheur misérable est une chose et être un saint misérable en est une autre. Et j'ai été les deux. Marie sait que son attitude est mauvaise, elle veut changer. Elle a reçu un suivi psychologique de 2 personnes. Elle saisit chaque occasion pour compris pour elle. Elle réclame la victoire sur la rébellion, la rancune, le ressentiment, la colère et l'amertume. Pourquoi elle n'a vu aucune amélioration? Eh bien, la réponse se trouve dans Romains 12, verset 2. Nous allons y aller et le lire avant d'aller plus loin. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous façonnez pas et ne vous adaptez pas à ces coutumes extérieures superficielles, mais soyez transformés, entièrement changés, par le renouvellement entier de votre pensée. Soyez changés par le renouvellement de votre pensée. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes changés par la puissance du Saint-Esprit et le renouvellement de notre pensée. Quand vous êtes sauvés, votre pensée n'est pas sauvée. Vous recevez une nouvelle pensée, la pensée de l'Esprit. Vous recevez l'Esprit de Christ et nous en parlerons un peu plus tard. Mais elle a toujours besoin d'être développée. C'est quelque chose qui est au très fond de vous. De vieilles habitudes doivent être brisées. Beaucoup de forteresses doivent être rasé. Combien de personnes reçoivent Christ comme leur sauveur? Ils sont sincères, ils prient une prière du salut avec quelqu'un, ils veulent changer leur vie radicalement, mais elles ne s'instruisent vraiment jamais. Elles ne s'instruisent jamais. Il n'y a personne ici ce soir qui s'attende à être médecin sans aucune instruction. Vous ne vous attendez pas à être un bon dentiste sans instruction. Vous ne vous attendez pas à être une maîtresse d'école sans instruction. Vous ne vous attendez même pas à être une maîtresse de maternelle sans aucune instruction. Et pourtant, nous nous attendons à être des chrétiens victorieux, puissants, sans aucune instruction. Et ça ne va pas marcher. Maintenant, vous êtes venus ici ce soir parce que vous êtes des gens qui veulent s'instruire. Mais devinez quoi? Il y a des millions de personnes qui nous regardent en ce moment à la télé. Et beaucoup d'entre vous ne savent rien sur la parole de Dieu. Et si quelqu'un vous demande, vous diriez peut-être, « Oui, je crois en Jésus. » Mais croyez-moi, même si vous croyez en Jésus et que vous croyez sincèrement en Jésus, Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, non mais la connaître, ne pas avoir un peu de connaissance mentale, mais la connaître, vous n'avez aucun moyen de savoir ou de discerner quand le diable vous dit des mensonges. Et si vous le laissez vous mentir, il va sûrement gouverner votre vie. Combien d'années suis-je allée à l'église, semaine après semaine après semaine après semaine? J'étais dans le conseil d'évangélisation dans mon église. Je sortais et je frappais aux portes et je parlais aux gens de Jésus par devoir car je voulais travailler pour Dieu. Je lisais un chapitre par jour dans ma Bible et cela par devoir. Je ne me rappelais pas une chose que je lisais et je ne la comprenais pas non plus. Et je ne voudrais en aucune façon offenser l'église que je fréquentais car à dire vrai, on m'a enseigné de très bons fondements sur le salut par la grâce. Mais personne en fait ne m'a appris à penser et à agir comme un être humain sain d'esprit. J'allais à l'église le dimanche, je me querellais avec Dave toute la semaine, j'engueulais mes enfants tout le temps, j'étais misérable, déprimée, coléreuse, j'étais un gâchis complet et je revenais à l'église le dimanche. Et vous savez quoi? Je me suis déchaînée pendant les 37 dernières années depuis que le Seigneur a touché ma vie et que j'ai appris sa parole pour voir les chrétiens grandir et mûrir pour qu'ils aient ce que Dieu a envoyé Jésus mourir pour eux, pour qu'ils l'aient et pour que nous puissions être des lumières dans un monde d'obscurité. Amen. Et je suis très passionnée à ce sujet. Et c'est là où ça commence. Le renouvellement de votre pensée, et c'est un processus qui ne s'arrête jamais. En étudiant pour cette série de messages pendant les deux dernières semaines, plus la conférence approchait, plus je me retirais et j'étudiais, plus je méditais là-dessus, plus je lisais, plus j'y pensais. J'ai pensé à tous ces versets sur la pensée toute la journée, et ça m'a vraiment aidé. Ma pensée s'est améliorée en me préparant à prêcher mon message sur la pensée. Donc je dis toujours, je serai heureuse de prêcher à moi-même, même si vous n'en avez pas besoin. Nous devons renouveler notre pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, changés par le renouvellement complet de votre pensée pour que vous puissiez prouver pour vous prouver quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite pour vous. Je ne veux pas me contenter de parler des bonnes choses que Dieu veut que j'aie. Je veux les voir. Je veux qu'elles se manifestent dans ma vie. Et non seulement vous les prêchez, je veux que vous disiez, Joyce, je les ai. Je veux écouter vos témoignages. J'ai été libérée. Je suis une nouvelle personne. Mon mariage a changé. Mes enfants sont différents. Ma maison est différente. J'ai la paix dans ma vie. Marie avait un problème. Je suis sûre que Marie était une femme douce, qui aimait Jésus, mais elle avait des forteresses dans sa pensée. Et tant qu'elle n'était pas détruite, rien n'allait jamais changer pour elle. Eh bien, la seule façon dont nous allons gagner la bataille dans la pensée, c'est d'étudier la parole de Dieu. Maintenant, vous savez, je dis ça maintes et maintes fois aux gens, et je sais, de mon expérience, que plus vous connaissez la parole de Dieu, plus elle devient une partie de vous, moins vous aurez des ennuis avec votre pensée. Il n'y a pas d'exaucement drive-in, j'aime à dire, mais la vérité vous affranchira. Et ce que je veux dire par là est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout peut être fait rapidement. Nous pouvons acheter presque tout drive-in, mais quand il s'agit d'avoir un esprit renouvelé, ça va prendre un peu de travail et d'effort de notre part. Oui, nous devons prier et demander à Dieu de nous aider. Nous ne pouvons pas faire ça sans lui, mais il va falloir étudier la parole de Dieu. Vous savez, si vous n'avez pas vraiment étudié la parole de Dieu, je voudrais suggérer que vous commenciez avec 15 minutes par jour. Ne commencez pas par quelque chose d'écrasant. Commencez doucement et peu de temps après, vous verrez tellement de bons résultats que vous voudrez le faire régulièrement.